Lorsqu'on retira le bandeau de Taylor, il n'eut pas besoin de cligner des yeux à cause d'une luminosité soudaine car il faisait sombre. En réalité, même si l'endroit était éclairé par une lampe très puissante, la lumière était absorbée par les parois de la roche. Taylor sentit une odeur de désinfectant et remarqua que la grotte était aménagée en une sorte de poste médical avancé, avec de nombreux coffres en aluminium dans lesquels étaient rangés en bon ordre tout un attirail d'accessoires de santé. Des bouteilles d'oxygène, des petits cabinets de désinfection anti-UV, des lampes cyalytiques mobiles et d'autres appareils médicaux comme des générateurs de rayons X portables et des défibrillateurs. Tous ces instruments semblaient tout juste sortis de leurs emballages et prêts à être empaquetés et emportés à tout moment. Taylor vit encore deux mitraillettes suspendues à la paroi, mais leur couleur se fondait avec celle de la roche et il n'était pas évident de les distinguer. Deux personnes au visage inexpressif, un homme et une femme, le frôlèrent. Ils n'étaient pas en blouse blanche, mais Taylor était certain qu'ils étaient respectivement médecins et infirmières. Le lit était placé à l'extrémité de la grotte. Les rideaux derrière lui, la couverture tirée sur le vieil homme, le kéfier sur sa tête, sa barbe et même son visage, tout était entièrement blanc. La lumière du lieu était comme le halo d'une bougie, dissimulant une partie de cette blancheur et projetant des faibles reflets dorés, transformant la scène en une de ces peintures à l'huile classique qui représentent un saint. Taylor marmonna intérieurement « Bon Dieu, mais comment est-ce que je peux penser à ça ici ?» Il s'avança dans la direction du lit, tentant de surmonter ses douleurs aux hanches et à l'intérieur des cuisses et de garder une démarche digne. Il s'arrêta devant le lit, devant cet homme que lui et son gouvernement traquaient jour et nuit depuis tant d'années. Il osait à peine y croire. Il observa le visage pâle du vieillard. Il était comme les médias l'avaient toujours décrit, le visage le plus bienveillant du monde. L'humain est une créature étrange. « Je suis honoré de vous rencontrer enfin, » dit Taylor en s'inclinant légèrement. « C'est un honneur partagé, » répondit poliment le vieillard sans bouger. Sa voix soyeuse semblait capable de neutraliser toute énergie sans jamais pouvoir être brisée, telle une toile d'araignée. Le vieillard fit un geste de la main vers le bord du lit. Taylor s'y assit avec précaution, sans savoir si c'était là un signe d'amabilité car il n'y avait pas de chaise. Le voyage a dû être éreintant. C'est la première fois que vous voyagez à dos de mule. Oh non, ça m'était déjà arrivé une fois en parcourant le Grand Canyon, expliqua Taylor, mais ses cuisses n'avaient pas autant frotté que cette fois-là. Quel est votre état de santé? Comme vous pouvez le voir, dit le vieillard en secouant lentement la tête, je ne tiendrai plus très longtemps. Un éclair espiègle passa soudain dans ses deux profondes cavités oculaires. Je sais bien que vous êtes la personne au monde qui espère le moins que je meure de maladie. Vous m'en voyez navré. L'ironie de cette phrase piqua Taylor au vif, mais le vieillard avait raison. Ce dont Taylor avait jadis le plus peur, c'était que cet homme soit emporté par la maladie ou par la vieillesse. L'ancien secrétaire à la défense des États-Unis avait prié plus d'une fois qu'un missile de croisière américain ou la balle d'un commando spécial tue cet homme avant, même si ce n'était qu'une minute avant, qu'il meure d'une cause naturelle. Car une mort naturelle aurait été son ultime victoire et un échec cuisant pour la guerre contre le terrorisme. Mais voilà que maintenant cet homme approchait de cette gloire. En réalité, l'occasion s'était déjà présentée dans le passé. Une fois, un drone Predator avait réussi à prendre une photo de lui dans la cour d'une mosquée d'une région montagneuse reculée du nord de l'Afghanistan. En manipulant le drone de telle manière qu'il lui tombe dessus, on aurait pu écrire l'histoire, d'autant que l'engin était doté d'un missile à guidage laser Hellfire. Mais après que le jeune officier avait eu confirmé l'identité de la cible, il n'avait pas eu le courage de prendre lui-même cette décision et il s'en était remis à sa hiérarchie. Pendant ce temps, la cible avait disparu. Taylor, qui avait été tiré du lit, avait explosé de colère. Il avait été si furieux qu'il en avait brisé une de ses plus précieuses porcelaines de Chine. Taylor voulut esquiver ce sujet embarrassant et posa la serviette qu'il avait apportée avec lui au bord du lit. « J'ai un petit présent pour vous. » Il ouvrit la serviette et en sortit des livres reliés. « C'est la nouvelle traduction en arabe. » De ses mains aussi maigres que des fagots secs, le vieillard se saisit tant bien que mal du dernier livre de la pile. « Oh, je n'avais lu que la première trilogie. J'avais bien demandé qu'on m'achète la suite, mais je n'ai jamais eu le temps de les lire et puis je les ai perdus. Excellent, oui, merci, j'apprécie beaucoup ce cadeau. La légende veut que vous vous soyez inspiré de ces romans pour baptiser votre organisation. » Le vieillard reposa délicatement le livre et sourit. « Laissons la légende à la légende. Vous avez l'argent et la technologie, nous n'avons que des légendes. » Taylor récupéra le livre que venait de poser le vieillard et le brandit face à lui comme un pasteur la Bible. « Si je suis venu vous voir, c'est pour faire de vous le nouveau Harry Seldon. » La même lueur espiègle éclaira les yeux du vieillard. « Oh, que dois-je faire ?»« Maintenir votre organisation. » « La maintenir ? Jusqu'à quand ?»« La maintenir pendant les 4 siècles à venir. La maintenir jusqu'à l'ultime bataille. » « Et vous pensez que c'est possible ?»« Oui, si elle continue à se développer. Son esprit et son âme devront imprégner les forces spatiales. Votre organisation deviendra une partie de l'armée spatiale. » « Et que nous vaut une telle estime ?» Le sarcasme qui pointait dans les paroles du vieillard était de plus en plus manifeste. Elle fait partie des rares forces armées encore prêtes aujourd'hui à utiliser des vies comme armes de combat. Comme vous le savez, les sciences fondamentales ont été verrouillées par les intellectrons. Par conséquent, les progrès en termes de capacité de calcul et d'intelligence artificielle seront limités. Au cours de l'ultime bataille, les vaisseaux spatiaux devront être pilotés par des hommes et seuls des individus habités par un tel esprit en seront capables. Et qu'est-ce que vous nous avez apporté en dehors de ces quelques livres ? Taylor se releva euphorique. Tout dépend de ce dont vous avez besoin. Tant que l'organisation existera, je veillerai à ce que vous obteniez tout ce que vous demandez. Le vieillard fit un geste de la main invitant Taylor à se rasseoir. « J'ai de la peine pour vous. Après tant d'années, vous n'avez toujours pas compris ce dont nous avons vraiment besoin. Dites-le-moi. Des armes ? De l'argent ? Non, non. Quelque chose de plus précieux que ça. La raison d'être de l'organisation n'a rien à voir avec le grandiose plan Seldon. Il serait impossible de convaincre une personne saine d'esprit d'y croire et de se sacrifier pour lui. Non. L'organisation existe car elle possède quelque chose qui est à la fois son air et son sang, et sans quoi elle disparaîtrait aussitôt. Quoi ? La haine. Taylor se tut. D'un côté, depuis que nous avons un ennemi commun, notre haine envers l'Occident s'est un peu estompée. De l'autre, les trisolariens veulent anéantir l'ensemble de l'humanité, y compris cet Occident que nous haïssons. Pour nous, mourir ensemble nous ravirait. Par conséquent, nous n'avons aucune haine pour les trisolariens. Vous voyez, la haine est un trésor plus précieux que l'or ou les diamants. C'est l'arme la plus tranchante du monde. Mais nous l'avons maintenant perdue, et vous ne pouvez plus nous la donner. Aussi, l'organisation, tout comme moi, ne vivra plus très longtemps. Taylor gardait le silence, le laissant parler. Et pour ce qui est de Seldon, son plan aussi était impossible. Taylor poussa un long soupir et se rassit à côté de lui. Pour parler ainsi, vous avez dû lire la suite de la première trilogie. Le vieillard, surpris, haussa les sourcils. Non, je ne l'ai pas lu, c'est simplement ce que je pense. Alors le plan Seldon finit lui aussi par échouer. Si c'est le cas, l'auteur est un homme exceptionnel. Moi qui croyais que l'histoire se terminerait par une fin heureuse, qu'Allah le bénisse. Asimov est mort depuis des années. Je prie pour qu'il soit au paradis, n'importe lequel. Les hommes les plus sages partent toujours les premiers. Sur la majeure partie du voyage du retour, Taylor put voyager sans bandeau sur les yeux, si bien qu'il eut la chance d'admirer le paysage aride et escarpé des chaînes montagneuses afghanes. Le jeune homme qui tirait sa mule faisait tellement confiance à Taylor qu'il avait accroché sa mitraillette à la selle, à portée des mains du colmateur. « As-tu déjà tué quelqu'un avec cette arme ?» demanda Taylor. Le jeune homme ne comprit pas la question, mais un autre individu, plus âgé, à dos de mule et sans armes, répondit à sa place. « Non, ça fait bien longtemps que nous n'avons pas combattu. » Le jeune homme leva la tête et regarda Taylor d'un air interrogateur. Il ne portait ni barbe ni moustache, et son expression était juvénile. Ses yeux étaient aussi purs que le ciel de l'Asie occidentale. « Maman, je vais devenir une luciole. » À la quatrième audience du CDP, c'est la mine fatiguée par son long voyage que Taylor proposa quelques ajustements à son plan essaim de moustique. « Je souhaite que chaque appareil de l'essaim soit équipé de deux systèmes de contrôle, le premier avec pilotage manuel et le second sans pilote. Lorsque les chasseurs basculeront sur le deuxième mode, je souhaite pouvoir prendre moi-même le contrôle sur l'intégralité de l'escadron. » « Eh bien, vous donnez de votre personne, » ironisa Heinz. « Je devrais être en mesure de contrôler les chasseurs quand ils seront assemblés en un seul peloton, de manière à pouvoir les diriger vers la zone de combat. Puis j'ordonnerai à cette formation de se décomposer en essaim, et lorsqu'ils seront à une distance suffisamment proche de la flotte ennemie, je donnerai l'ordre à chaque moustique de sélectionner sa propre cible et d'attaquer sans délai. J'ose croire que même avec le gel des sciences fondamentales, nos technologies d'intelligence artificielle pourront aisément atteindre ce niveau de développement dans 2 ou 3 siècles. À vous entendre, on en conclut donc que vous avez l'intention d'hiberner jusqu'à l'ultime bataille et d'attaquer dès votre réveil la flotte trisolarienne avec vos essaims de moustiques? Ai-je vraiment le choix? Aucun parmi vous n'ignore que je me suis récemment rendu au Japon, en Chine et même en Afghanistan. Où vous avez rendu visite à cet homme ? L'interrompit le représentant américain. Oui, où j'ai rendu visite à cet homme, mais... Taylor poussa un soupir de découragement. Je poursuivrai mes efforts pour établir une force de chasseurs dont les pilotes auront l'esprit du sacrifice. Mais si je n'y arrive pas, il me faudra bien mener moi-même la dernière offensive. Il n'eut aucune réaction. Dès qu'était évoquée l'ultime bataille, on choisissait toujours le silence. « Par ailleurs, je souhaiterais ajouter un nouvel élément à mon plan, » poursuivit Taylor. « Je demande que soient menées, selon les directions que je donnerai, des recherches avancées sur plusieurs corps célestes du système solaire. Cela concerne Europe, Cérès, ainsi que quelques comètes. « Mais quel est le rapport avec votre flotte spatiale ?» demanda un représentant. « Dois-je répondre ?» demanda Taylor en interrogeant du regard le président du CDP. Aucune réponse ne lui parvint. Naturellement, il n'avait aucune obligation de se justifier. « J'ai une dernière suggestion. Le Conseil de défense planétaire, de même que toutes les nations du monde, devrait immédiatement modérer leurs attaques contre l'organisation Terre Trisolaris. » Ray Diaz bondit sur son siège. « Monsieur Taylor !» Même si vous nous disiez que cette exigence scandaleuse faisait partie de votre plan, je m'y opposerai résolument. Taylor secoua la tête. Cela ne fait pas partie de mon plan. Cela n'a même rien à voir avec le programme collimateur. La raison qui me pousse à faire part de cette suggestion est limpide. En continuant à frapper l'OTT, celle-ci finira peut-être par être complètement détruite en 2 ou 3 ans, et la Terre perdra alors tout intermédiaire de communication directe avec le monde trisolarien. Nos principales sources de renseignements sur l'ennemi seront taries, et tout le monde ici sait quelles en seront les retombées. « Je partage cette analyse, » dit Heinz, « mais cette proposition ne devrait pas être soumise par un collimateur. N'oubliez pas qu'aux yeux du public, nous appartenons à une seule et même entité. Veillez donc à ne pas salir notre réputation. » La réunion s'acheva par ces questions en suspens. Les membres du CDP tombèrent toutefois d'accord sur un point. On étudierait les 3 nouvelles révisions du plan de Taylor et elles seraient soumises au vote du comité lors de la prochaine audience. Taylor fut le dernier à se lever de son siège. Il était étourdi et fatigué après ses récents périples. Il balaya du regard la salle vide et prit soudain conscience d'un risque qu'il avait négligé jusque-là. Il devait trouver un médecin ou un psychologue et aussi un spécialiste du sommeil. En tout cas, quelqu'un qui l'empêcherait de parler en dormant. Il était 22h lorsque Luoji et Chuang Yan arrivèrent devant l'entrée du Louvre. Kent leur avait conseillé de visiter le musée de nuit afin de faciliter leur protection. Ils reconnurent au premier coup d'œil la pyramide de verre et le palais en U qui les coupait du tumulte de la nuit parisienne. La pyramide se dressait paisiblement sous les rayons de lune, comme au milieu d'un lac. Elle paraissait construite en argent. « Professeur Luo, n'avez-vous pas l'impression qu'elle a atterri ici depuis l'espace ?» demanda Chuang Yan en désignant la pyramide. Au début, on se demande ce qu'elle fait là, on s'indigne, mais après quelque temps, elle devient indispensable. La fusion de deux mondes radicalement différents, pensa Luoji, mais il ne le dit pas à voix haute. À cet instant, la pyramide s'éclaira, passant d'un argent lunaire à un or rutilant. Au même moment, les fontaines des bassins avoisinants se mirent en marche, faisant s'élever vers le ciel de longues colonnes d'eau et de lumière. Saisi d'angoisse, Chuang Yan regarda Luoji. Le soudain réveil du Louvre l'avait troublé. Accompagné par la musique de l'eau des fontaines, ils pénétrèrent dans le grand hall sous la pyramide et entrèrent enfin dans le palais. Ils se rendirent d'abord dans la plus grande salle du musée. Elle était longue de 200 mètres et faiblement éclairée. On entendait l'écho de leurs pas dans cet espace vide. Luoji remarqua très vite que seuls ses pas à lui résonnaient, car ceux de Chuang Yan foulaient aussi silencieusement le sol que des coussinets de chat. Un peu comme un enfant qui aurait pénétré pour la première fois dans un château enchanté, craignant de réveiller quelque créature sommeillant à l'intérieur. Luoji ralentit son allure pour garder une certaine distance avec Chuang Yan. Il n'éprouvait aucun intérêt pour les œuvres, mais l'admirait, elle, au milieu de cet univers artistique, de ces murs couverts de peintures à l'huile figurant des dieux grecs aux silhouettes harmonieuses, des anges et des vierges immaculées qui, comme lui, contemplaient depuis les quatre coins de la pièce la beauté de cette jeune femme. Elle était comme cette pyramide étincelante au centre de la cour, qui avait fini par se fondre dans l'atmosphère artistique de son environnement et dont l'absence aurait inévitablement provoqué un manque. Luoji s'enivrait de cette vision onirique, laissant le temps s'égrener au ralenti. Il fallut un long moment avant que Chuang Yan ne se souvienne de la présence de Luoji. Elle tourna la tête et lui adressa un sourire. Le cœur de ce dernier frémit. Ce sourire était un éclair de lumière envoyé dans le monde mortel par les dieux du mont Olympe. J'ai entendu dire que si on voulait profiter correctement de chaque œuvre, il fallait passer une année entière entre ces murs, dit Luoji.
Je sais, répondit simplement Chuang Yan, mais ses yeux disaient « Que devrais-je faire ?»
Elle replongea son attention dans un nouveau tableau. Du temps avait passé, mais elle n'en était qu'à la cinquième œuvre. « Ça ne fait rien, Yan Yan. Je pourrais t'accompagner toutes les nuits de toute une année », ne put s'empêcher de lâcher Luoji. En entendant ces mots, Chuang Yan se retourna vers Luoji, visiblement émoustillé.
« Vraiment ? Vraiment ? Eh bien, professeur Luo, étiez-vous déjà venu ici ?»«
Non, mais il y a 3 ans, lors d'un voyage à Paris, je suis allé au centre Pompidou. J'aurais cru que ce musée t'intéresserait davantage. »«
Je n'aime pas l'art contemporain. »
dit Chuang Yan en secouant la tête. Et tout cela, fit Luoji en observant les dieux, les anges et les vierges qui les entouraient. Tu ne les trouves pas trop anciens?
Je n'aime pas non plus les tableaux trop anciens. En fait, je n'aime que les peintures datant de la Renaissance.
Elles aussi sont vieilles.
Pas à mes yeux. Les artistes de cette époque ont été les premiers à découvrir la beauté de l'homme. Leurs dieux sont peints sous les traits de gens magnifiques. Regardez ces tableaux. On peut sentir la joie qui les animait lors de leurs coups de pinceau. Cette sensation, c'est la même que j'ai éprouvée ce matin-là, lorsque j'ai vu pour la première fois le lac et le pic enneigé.
Certes,
Mais les grands maîtres de la Renaissance ont aussi été les pionniers de l'esprit humaniste qui est maintenant devenu notre plus gros handicap. Vous voulez dire, en cette période de crise trisolarienne?
Oui. Tu as certainement vu tout ce qui s'est passé récemment. Dans 4 siècles après la catastrophe, le monde humain retombera peut-être au Moyen-Âge et l'humanité se retrouvera de nouveau bridée. Et l'art sombrera lui aussi dans une longue nuit d'hiver, c'est ça?
En regardant les yeux innocents de Chuangyan, Luoji eut intérieurement un sourire amer.
Petite sotte, tu parles d'art, mais si l'humanité parvenait à survivre, retourner à un état de société primitive serait un bien faible prix à payer.
Cependant, il ajouta, quand le moment sera venu, peut-être y aura-t-il une deuxième renaissance, où on redécouvrira et où on repeindra une beauté oubliée.
Un nouveau sourire se dessina sur ses lèvres. Celui-ci était plein de chagrin. Elle avait de toute évidence compris que les paroles de Luoji n'étaient que des mots de réconfort.
Je m'interroge seulement sur ce que deviendront ces tableaux après la fin du monde.
Tu t'inquiètes pour ça ? S'étonna Luoji. Il avait eu un pincement au cœur lorsqu'elle avait prononcé « fin du monde ». Mais si sa précédente tentative de la rassurer avait échoué, il savait que la prochaine réussirait. Alors il lui saisit la main et lui dit « Viens, allons voir les collections asiatiques ». Avant la construction de la pyramide, le Louvre était un gigantesque labyrinthe. Pour rejoindre l'une des salles, il fallait faire une longue boucle. Mais aujourd'hui, l'entrée de la pyramide reliait toutes les salles. Après être revenus dans le grand hall, ils suivirent le panneau indiquant la direction du département des arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Par comparaison avec la salle où se trouvaient les peintures classiques européennes, celle-ci semblait un tout autre monde. Luoji pointa du doigt ses sculptures, ses peintures et ses anciens manuscrits venus d'Asie et d'Afrique, et dit « Voilà ce qu'une civilisation avancée fait des civilisations qu'elle juge rétrogrades. Certaines de ses œuvres ont été pillées, d'autres volées, d'autres encore échangées malhonnêtement, mais regarde, elles sont maintenant parfaitement conservées. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, ces objets étaient en lieu sûr. » Ils restèrent un moment devant le fragment d'une peinture originaire des grottes bouddhistes de Dunhuang, placée derrière une vitrine scellée. Imagine combien de guerres et de bouleversements notre pays a connus depuis que Wang Yuanlu a vendu cette œuvre aux Français. Si tout était resté à Dunhuang, peux-tu être sûr que les peintures murales auraient été préservées?
Mais les trisolariens préserveront-ils le patrimoine culturel de l'humanité?
Ils n'éprouvent que du mépris pour notre civilisation, glissa Chuangyan.
Parce qu'ils nous ont traités de vermine?
Mais ce n'est pas si simple. Yan Yan, sais-tu quelle est l'expression la plus évidente de l'estime d'une civilisation pour une autre?
Laquelle?
Son anéantissement. C'est la plus grande considération qui puisse être portée à une civilisation.
Ils déambulèrent lentement le long des 24 galeries, imaginant un futur ténébreux en marchant au cœur de ce passé lointain. Sans vraiment le vouloir, ils arrivèrent au niveau du département des antiquités égyptiennes.
Sais-tu à qui je pense?
Luoji s'arrêta à hauteur d'une vitrine derrière laquelle reposait un masque mortuaire en or. Il avait envie d'évoquer un sujet plus léger.
À Sophie Marceau.
À cause du film Belphégor, c'est ça?
Sophie Marceau est splendide, elle a quelque chose de très oriental.
Peut-être se trompait-il, mais Luoji avait perçu comme une pointe de jalousie dans les paroles de Chuangyan.
Yan Yan, sa beauté n'a rien de comparable avec la tienne, vraiment.
Luoji aurait encore voulu ajouter qu'il était peut-être possible de trouver la beauté de Marceau dans ses œuvres, mais que celle de Chuangyan ne faisait pas lire leurs couleurs. Mais il ne voulait pas paraître trop aigre. Il vit un sourire timide traverser son visage comme un nuage flottant. C'était la première fois qu'il le voyait.
« Retournons plutôt voir les peintures à l'huile, » chuchota Chuangyan.
Ils passèrent une nouvelle fois dans le grand hall, mais ils oublièrent l'entrée qu'ils devaient prendre. Luoji vit que les 3 panneaux les plus visibles indiquaient la direction des 3 joyaux les plus célèbres du Louvre, la Joconde, la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace.
« Allons voir la Joconde ?» proposa Luoji.
Sur le trajet, Chuang Yan expliqua. Un de nos professeurs nous a un jour raconté que, depuis sa première visite au musée du Louvre, il ressentait une aversion pour la Joconde et la Vénus de Milo.
Pourquoi ?
Parce que tous les touristes se ruent sur ces deux œuvres et n'éprouvent aucun intérêt pour d'autres œuvres tout aussi grandioses, mais dont la réputation est moins établie.
Je fais moi aussi partie de ces touristes incultes.
Quand ils furent arrivés devant ce sourire mystérieux, Luoji remarqua que le tableau était bien plus petit que dans son imagination. Derrière son épaisse vitre de protection, il ne suscita chez Chuang Yan aucune excitation particulière.
« En la regardant, je pense à vous autres, » dit Chuang Yan en désignant la peinture.
« Nous ?»«
Les collimateurs. »
« Quel rapport avec les collimateurs ?»«
Eh bien, voilà, je me dis que... Ce n'est qu'une idée comme ça, ne vous moquez pas. Je me dis qu'on pourrait peut-être trouver une façon de communiquer que seuls les êtres humains entre eux pourraient comprendre, mais que les intellectrons ne pourraient jamais assimiler. Comme ça, l'humanité serait débarrassée de leur surveillance. »
Luoji regarda Chuang Yan et réfléchit quelques secondes, puis il se tourna vers la Joconde.
« Je comprends ce que tu veux dire. Son sourire, c'est quelque chose que ni les intellectrons ni les trisolariens ne comprendront jamais. »
« En effet, les expressions des humains, particulièrement celles qui se manifestent dans leur regard, sont subtiles, complexes. Un coup d'œil ou un sourire peuvent transmettre tant de messages. Et ces messages, il n'y a que les humains pour les comprendre. Les humains sont les seuls à avoir cette sensibilité. »
Oui. L'un des plus grands obstacles aujourd'hui rencontrés par l'intelligence artificielle est d'identifier les expressions faciales et les regards humains. Certains experts prétendent même qu'aucun ordinateur ne pourra jamais parfaitement déchiffrer un regard.
On pourrait alors créer un langage se basant simplement sur les expressions, avec nos yeux et notre visage.
Luoji réfléchit très sérieusement à la question, puis il finit par sourire en secouant la tête et en montrant Mona Lisa du doigt.
Nous ne sommes même pas capables de déchiffrer son expression. Quand je la regarde, j'ai l'impression que chaque seconde qui passe, son sourire révèle une nouvelle signification.
Chuang Yan sautilla d'excitation comme une enfant. Mais justement, est-ce que cela ne montre pas combien les messages transmis par un sourire peuvent être complexes?
Comment ferais-tu passer cette information? Les vaisseaux quittent la Terre, destination Jupiter.
Quand les premiers hommes ont commencé à parler, ils ont certainement dû exprimer des choses simples au début, peut-être même moins complexes que des chants d'oiseaux. C'est petit à petit que le langage s'est complexifié.
Eh bien, essayons de faire passer une information simple rien qu'avec les expressions de notre visage.
D'accord, s'exclama Chuang Yan avec enthousiasme. Alors, chacun de nous va penser à un message puis le transmettra à l'autre?
Luoji resta un moment interdit, puis il dit... J'ai trouvé le mien.
Chuang Yan réfléchit encore un peu plus longtemps, puis elle hocha la tête.
Alors, commençons.
Ils se regardèrent, mais ne purent tenir plus de 30 secondes avant d'éclater presque en même temps de rire.
Mon message était « Ce soir, je voudrais t'inviter à dîner sur les Champs-Élysées », dit Luoji.
Chuang Yan éclata de rire. Et le mien, vous devriez vous raser.
Nous devrions être plus sérieux, il en va du destin de l'humanité, pouffa Luoji en se retenant de rire.
D'accord. Et cette fois, interdit de rire, lança Chuang Yan avec le même sérieux qu'une enfant qui redéfinit les règles d'un jeu.
Ils se mirent dos à dos et pensèrent à un nouveau message, puis se retournèrent et se regardèrent. Luoji eut une irrésistible envie de rire, mais il parvint à la contenir. Très vite, il n'eut plus besoin de se forcer car la pureté du regard de Chuang Yan tirait à nouveau sur sa corde sensible. Et c'est ainsi que le collimateur et la jeune femme se toisèrent en plein milieu de la nuit, à l'intérieur du musée du Louvre, devant le sourire de la Joconde. Sur la digue de l'esprit de Luoji coulait un minuscule ruisseau qui semblait vouloir éroder le sable. Il créa une fissure qui s'élargit peu à peu. Puis le ruisseau devint torrent et Luoji fut pris de frayeur. Il essaya de remblayer la digue, mais en vain. Elle finirait inévitablement par céder. À cet instant,
Luoji eut la sensation d'être au sommet d'une falaise abrupte et que les yeux de la jeune femme étaient le gouffre qui s'étendait sous ses pieds. Celui-ci était surplombé d'une mer de nuages blancs, mais les rayons du soleil qui perçaient de tous côtés eurent au fait de teinter la mer de nuages de couleurs somptueuses, se renouvelant sans cesse. Luoji se sentit glisser, lentement, très lentement, mais sans qu'il puisse de lui-même empêcher cette glissade. Affolé, il écarta ses quatre membres dans toutes les directions, cherchant une prise où s'agripper, mais sous son corps ne se trouvait qu'une surface de glace instable. Sa glissade s'accéléra, et dans un étourdissement frénétique, il entama sa chute dans le gouffre. En un instant, le bonheur de sombrer atteignit les limites de la douleur. Mona Lisa se disloquait, tout comme les murs, tels des morceaux de glace en train de fondre. Le musée du Louvre s'écroula, et dans sa chute, ses pierres se changèrent en magma rouge et rutilant. Ce magma s'écoula sur leur corps, mais il lui donna l'impression de fraîcheur d'une source d'eau pure. Puis ils s'abîmèrent eux aussi avec le Louvre, traversèrent le continent européen en fusion, gagnant le centre de la Terre, et quand ils l'eurent franchi, le monde autour d'eux se scinda dans une pyrotechnie de flammes cosmiques. Puis les flammes s'éteignirent brusquement et l'espace devint aussi transparent que du cristal. De leurs rayons étincelants, les étoiles brodèrent un gigantesque tapis argenté. Les astres oscillèrent, exécutant une symphonie merveilleuse. L'océan d'étoiles se densifia comme à marée haute. L'univers se contracta et s'effondra sur eux, jusqu'à ce qu'enfin tout se dissipe dans les lueurs cosmogoniques de l'amour.